Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqarah. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran. En ce lundi 19 février 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran salue la déclaration de l'Union africaine qui appelle à la fin des crimes israéliens. Plus de 70 civils ont été tués dans les frappes israéliennes à Gaza. Et un navire britannique visé, un drone américain abattu par les forces armées yéménites. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. L'Iran a salué la récente déclaration publiée par l'Union africaine qui appelle à la fin des crimes du régime israélien contre le peuple palestinien dans la bande Gaza assiégée. La déclaration a été publiée samedi 17 février lors du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a fermement condamné la sauvagerie israélienne et les attaques aveugles contre Gaza. Rassurez-vous, nous condamnons fermement ces attaques sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous voulons vous rassurer de notre solidarité avec le peuple palestinien, a dit Faki, tout en accusant Israël d'avoir exterminé les habitants de Gaza. S'exprimant dimanche 18 février, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a réitéré le soutien catégorique de l'Iran à cette déclaration. La République islamique d'Iran déclare son soutien catégorique au contenu de cette déclaration qui montre l'engagement de l'Union ainsi que des dirigeants et des nations africaines envers les idéaux humanitaires précieux concernant la Palestine, a-t-il noté. Pour Téhéran, nul doute que l'adoption permanente de telles positions de principes humaines par les États africains ainsi que par de nombreux autres pays et nations à travers le monde en soutien à la nation palestinienne opprimée resserra l'étau autour des bellicistes sionistes et de leurs acolytes. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que de telles positions ouvriront également la voie à la cessation de l'attaque israélienne contre Gaza et la Cisjordanie occupée et atténueront les souffrances du peuple palestinien. Ces commentaires interviennent au 135e jour de l'agression militaire du régime sioniste contre Gaza qui a fait jusqu'à présent près de 29 000 tués, pour la plupart des femmes et des enfants. La déclaration de l'Union africaine a été également appréciée par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Nous espérons qu'elle se traduira par des mesures pratiques de la part de tous les pays africains amis et qui conduiront à la fin de l'agression et à la guerre génocidaire contre notre peuple palestinien dans la bande de Gaza. Nous appelons à rompre tous les liens avec l'entité criminelle sioniste et à soutenir la lutte de notre peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne ses droits nationaux légitimes, notamment la création d'un État indépendant palestinien avec Al-Quds pour capitale, a déclaré le Hamas. Plus de 70 civils palestiniens ont été tués par les attaques aveugles israéliennes dans la partie centrale de la bande de Gaza, qui est soumise depuis plus de 4 mois à une guerre génocidaire. L'agence presse officielle palestinienne Wafa a annoncé que les frappes aériennes et d'artillerie incessantes menées dimanche 18 février par l'armée israélienne sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans le district de Zubaida et sur la ville de Deir al-Bala ont fait plus de 70 victimes. Des dizaines d'autres personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été également blessées. Ailleurs, sur le territoire côtier, 5 corps, pour la plupart des enfants, ont été retrouvés sous les décombres. Dans la ville de Gaza, le régime a attaqué les quartiers de Shujaïa, Zaytoun, Tal al-Hawa et Sheikh Ijlin. Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que le régime avait commis 13 massacres à travers le territoire au cours des dernières 24 heures, faisant au moins 127 morts et plus de 200 blessés. Un grand nombre de victimes sont encore ensevelies sous les décombres ou gisent le long des routes. Le deuxième plus grand hôpital de la bande de Gaza a été complètement hors service, a déclaré dimanche 18 février le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza. Dans une interview avec l'agence de presse palestine Al-Yaoum, le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Ashraf Al-Roudja, a fait savoir qu'il n'y avait que 4 équipes médicales, soit 25 personnes, pour s'occuper des patients à l'hôpital Nasser dans la ville méridionale de Khan Younes. Il a poursuivi que la mise hors service de l'hôpital Nasser était une condamnation à mort pour des centaines de milliers de citoyens et de personnes déplacées dans la région de Khan Younes et de Rafah, arguant que le complexe médical est considéré comme l'épine dorsale des services de santé dans le sud de Gaza. Les soldats sionistes, dans un acte atroce et inhumain, ont détenu le personnel médical de l'hôpital Nasser de Khan Younes pendant de longues heures et ont procédé à l'interrogatoire. Ashraf Al-Roudja a également fermement condamné le traitement inhumain infligé par les soldats israéliens qui ont fouillé à nu des médecins et des personnels soignants de l'hôpital Nasser. Plus encore, ajoute-t-il, le régime israélien a saisi le convoi humanitaire tout juste avant son entrée dans le complexe médical Nasser, où il ne reste que 120 patients, dont certains ont besoin des soins intensifs. Le régime sioniste a arrêté un grand nombre de personnels médicaux, de réfugiés et de patients à l'hôpital Al-Amal. Ils ont également visé les ambulances et récupéré les clés d'autres voitures afin qu'elles ne puissent pas être utilisées. Les forces armées yéménites ont confirmé qu'un navire britannique a été visé dans le golfe d'Aden et qu'un drone américain MQ-9 Reaper a été abattu à Hudaïda. Les forces navales yéménites ont mené dimanche soir une opération militaire visant le navire britannique Rubimar dans le golfe d'Aden en utilisant plusieurs missiles navals, annoncé le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari. L'opération a causé des dommages catastrophiques au navire qui a failli couler. Le général Sari a réitéré que l'opération a été menée en soutien au peuple palestinien opprimé qui subit l'agression et le siège imposé par le régime sioniste et en réponse à l'agression américano-britannique contre le Yémen. Les forces armées yéménites ont souligné que dans le cadre de l'opération, elles avaient assuré l'évacuation en toute sécurité de l'équipage du navire, soulignant que tout le personnel était en sécurité. De même, le général Sari a confirmé que la défense aérienne yéménite a réussi à abattre un drone MQ-9 Reaper à Hudaïda. L'engin militaire d'espionnage américain effectuant des missions hostiles contre notre pays au nom de l'entité sioniste a été abattu à l'aide de roquettes appropriées, a annoncé le général Sari. La 60e conférence de Munich sur la sécurité s'est achevée dimanche 18 février après 3 jours de discussions sur les défis sécuritaires au cours desquels les dirigeants occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes et leur anxiété face aux risques géopolitiques. L'organisateur a souligné un risque réel que de plus en plus de pays se retrouvent dans une situation perdant-perdant. S'adressant à la conférence vendredi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la communauté mondiale est plus fragmentée et divisée qu'elle n'a jamais été au cours des 75 dernières années. Face aux défis régionaux, notamment la crise ukrainienne et la guerre à Gaza, les participants recherchaient une lueur d'espoir dans la situation mondiale actuelle. Un nombre croissant de représentants des pays du Sud ont été invités à cet événement ces dernières années. Ils ont exprimé leur point de vue sur la réforme d'un ordre mondial défini par l'Occident. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. S'exprimant samedi lors de la conférence Munich, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Michael Martin, a critiqué le dysfonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant que le droit de veto des 5 États n'a pas sa place au XXIe siècle. « Le veto est un anachronisme qui doit disparaître », a-t-il dit, faisant référence aux États-Unis qui ont utilisé leur droit de veto à plusieurs reprises pour bloquer un cessez-le-feu à Gaza. Cela n'a pas sa place au XXIe siècle. Ce n'est vraiment pas le cas. Nous devons vraiment maintenir la pression là-dessus, a dit Martin. Le droit de veto permet aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Fédération de Russie, d'opposer leur veto à toute résolution qui ne leur plaît pas. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a qualifié les résolutions sur la situation à Gaza de faibles, déplorant qu'il y ait eu plus de veto que d'action au Conseil de sécurité sur Gaza, par exemple. Pour rappel, les États-Unis se sont engagés samedi à opposer leur veto à un nouveau projet de résolution du Conseil de sécurité proposé par l'Algérie, qui appelle elle aussi à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le temps est écoulé. Les menaces n'empêcheront pas l'expulsion des États-Unis d'Irak après des années d'occupation. Tous les regards en Irak sont rivés sur les négociations qui ont actuellement lieu entre les responsables américains et le gouvernement de Mohammad Shia al-Soudani visant à mettre fin à des années d'occupation militaire américaine. Le climat de ces négociations semble tendu. Une source proche des derniers développements en matière de sécurité a déclaré que la résistance irakienne avait menacé de fermer l'ambassade américaine à Bagdad, qui a longtemps été accusée d'agir comme une base militaire américaine plutôt que comme une mission diplomatique. Cela entraînerait également la fermeture de toutes les ambassades occidentales affiliées à la coalition militaire dirigée par les États-Unis si les forces d'occupation américaines rejetaient les appels populaires et croissants au retrait d'Irak. Le gouvernement irakien peut également s'attendre à des menaces de la part de Washington lors des réunions. Alors que les revenus des ventes de pétrole irakien sont versés au trésor américain dans une mesure très injuste, Washington peut menacer d'imposer des sanctions qui pourraient affaiblir le dinar irakien. Ce sinistre stratagème viserait à dégrader le niveau de vie des familles irakiennes dans le but de retourner le peuple contre son gouvernement et la résistance. Il pourrait, tour d'eux, comme Washington l'espère, être tenu responsable de tout dommage infligé à l'économie du pays, même si les États-Unis tirent les ficelles. La résistance irakienne attend du gouvernement un calendrier clair pour l'expulsion des forces américaines. Elle n'est pas disposée à se contenter de peu, comme de vagues assurances sur les dates de retrait. La manière dont la résistance réalise sa menace contre l'ambassade américaine n'est pas claire. Mais il semble que l'Amérique ait déjà décidé de se retirer du pays. La seule question est de savoir quand et comment. Les États-Unis sont bien conscients que leur présence militaire en Irak déplaît profondément aux citoyens irakiens. Cela était évident lorsque la Maison-Blanche s'est abstenue d'ordonner des frappes contre la résistance qui avait attaqué des bases américaines en Irak et en Syrie environ 200 fois depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, c'est-à-dire depuis le 7 octobre 2023. Mais après les récentes frappes meurtrières américaines à la frontière irako-syrienne, suivies de l'assassinat du commandant militaire irakien Abu Bakr al-Sadi à Bagdad, tout indique que rien ne reviendra à la normale pour l'armée d'occupation américaine, même si la guerre israélo-américaine contre Gaza prend fin. L'Irak se trouve à la croisée des chemins, aux prises avec l'héritage du passé, tout en luttant pour un avenir plus sûr et plus stable. Le chemin à parcourir est sans aucun doute difficile, mais la force de la résistance reste une lueur d'espoir qui balise le terrain pour la prospérité du pays.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Nous allons nous pencher tout de suite sur les dernières évolutions palestiniennes. Nous sommes au 134e jour des attaques incessantes d'Israël contre la bande de Gaza, également contre l'axe de la résistance. Le mouvement de résistance libanais réagissant aux dernières évolutions a souligné que l'axe de la résistance est déterminé à libérer la Palestine de l'occupation de l'agression israélienne, quel qu'en soit le prix. On va se focaliser sur ce sujet avec nos deux invités qui nous rejoignent depuis la France. Mais avant d'entrer dans le débat, je vous propose un point en image. Reste avec nous. On se retrouve tout de suite après.
Le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré que le régime israélien paiera par le sang le prix du récent meurtre de civils dans le sud du pays, soulignant que le massacre n'obligera pas le mouvement de résistance à renoncer à son soutien aux Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. Seyed Hassan Nasrallah a fait ses remarques dans un discours télévisé diffusé ce vendredi 16 février en direct depuis Beyrouth, la capitale libanaise, à l'occasion de la journée des dirigeants martyrs du Hezbollah. Ce discours intervient deux jours après qu'une frappe israélienne a visé un bâtiment dans la ville de Nabatieh, dans le sud du Liban, coûtant la vie à 7 membres d'une famille, dont un enfant. Lors d'une autre attaque menée par l'entité illégale, une femme et ses deux enfants ont également été tués dans le village d'As-Savana, au sud du Liban. Nasrallah a condamné les frappes israéliennes sur Nabatieh et As-Savana, les qualifiant de massacres délibérés, et a déclaré que Tel Aviv devait savoir qu'elle était allée trop loin en ciblant les civils. L'ennemi paiera par le sang le prix du meurtre de nos femmes et de nos enfants. Le prix de ce sang sera le sang, pas les sites, les appareils d'espionnage et les véhicules. Je laisserai l'affaire sur le champ de bataille, a déclaré le leader du Hezbollah. L'ennemi tue nos dirigeants, nos combattants et nos familles et détruit nos maisons. Mais cela ne nous poussera pas à battre en retraite ni à abandonner nos responsabilités. Soulignant que l'objectif du régime israélien en tuant des civils est de faire pression sur la résistance pour qu'elle s'arrête, Nasrallah a déclaré « Nous sommes au cœur d'une véritable bataille sur un front qui s'étend sur plus de 100 km et le martyr de nos combattants fait partie de la bataille ». Le secrétaire général du Hezbollah a déclaré que le récent ciblage de la colonie de Kiryat Shemona dans le nord des territoires occupés avec des dizaines de roquettes Katyusha était une première réponse à l'effusion de sang de mercredi, ajoutant que la résistance libanaise dispose d'énormes capacités de missiles précises qui peuvent s'étendre depuis Kiryat Shemona au nord jusqu'à Eilat au sud.
Voilà, pour le reportage, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau par Skype Maître André Chami, juriste international, analyste politique. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous tous.
Heureuse de vous retrouver, Maître Chami.
Merci pour votre invitation et bonjour à votre invité, Madame Oubala.
Bonjour à Madame Roubala qui nous rejoint depuis Beyrouth, universitaire, géopoliticienne. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Roubala.
Merci de m'avoir encore une fois invitée sur votre plateau et également je salue votre très cher invité, Monsieur André Chani.
Alors, si vous voulez, on va ouvrir le débat avec vous, Madame Hopalla. Seyed Hassan Nasrallah a condamné les récentes frappes meurtrières israéliennes sur Nabatieh et As-Savana, les qualifiant de massacres délibérés. Il a déclaré que Tel Aviv devait savoir qu'elle était allée trop loin en ciblant les civils. Il a également déclaré que le prix de ce sang sera le sang. Alors, je vous laisse réagir. Comment vous interprétez ces déclarations de Seyed Hassan Nasrallah réagissant à ces attaques meurtrières qui visent délibérément les civils?
Oui, alors en termes de représentation géopolitique, c'est-à-dire il faut toujours se rappeler que le parti, le Hezbollah, est un parti doctrinal. Donc, quand il s'agit de mener une guerre, surtout pour le Hezbollah, il s'agit de mener une guerre tout en respectant ce qu'on appelle législation islamique, c'est-à-dire les lois de la guerre. Alors, dans les lois de la guerre, il est interdit de se défendre plus que la dimension et la nature de l'attaque. Donc, quand les Israéliens visent des civils, il est tout à fait normal que le Hezbollah vise aussi des civils. Quand les Israéliens visent des maisons, le Hezbollah visera des maisons. C'est ce qu'on appelle, il y a un verset coranique qui dit dent pour dent et œil pour œil et dent pour dent. Donc, ils le savent, les Israéliens savent parfaitement que si jamais ils visaient, ils cibleraient et tueraient des civils, eh bien, le Hezbollah, il va bien entendu répliquer. Maintenant, sachant que les Israéliens sont au courant et comprennent très bien la nature doctrinale du Hezbollah. La question qui se pose, c'est pas quelle sera la réaction du Hezbollah, elle est connue. Et pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi ont-ils attaqué des civils? Eh bien, tout simplement, ils essaient de changer l'équilibre de la dissuasion qui a été imposé par le Hezbollah depuis le 8 octobre. C'est le Hezbollah qui, en fait, est en train de diriger et d'imposer un certain tempo dans cette guerre, parce qu'il s'agit bien d'une guerre, entre le Liban et, plus exactement, la résistance islamique et les Israéliens. Et donc, à travers ce ciblage de civils libanais, les Israéliens tentent de dire, d'adresser un message au Hezbollah et aux Libanais, que c'est nous qui allons maintenant diriger le tempo de cette guerre, et non pas le Hezbollah. Or, la réplique du Hezbollah est claire, et on verra dans les jours qui viennent quelle sera la nature, la dimension de la riposte du Hezbollah, puisque le secrétaire général du Hezbollah a bien affirmé que ce n'est pas le moment pour en parler, et seul le terrain dira son mot. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que dans le discours de Saïd Hassan Nasrallah, il a été question pour la première fois il a rappelé l'histoire de la Palestine et il a bien souligné l'importance des Palestiniens de 48, et c'est la première fois dans son discours qu'il évoque les Palestiniens de 48, mettant en garde que si les listes sont israéliennes cherchent à réimposer une forme de le grand Eretz pour Israël, le grand Israël, justement en faisant une incursion terrestre à Rafah, en forçant les Gazaouis à aller vers le Sinaï et en supprimant le droit de retour des Palestiniens. Sachant que Netanyahu a bien affirmé à plusieurs reprises qu'il est contre l'instauration ou l'établissement d'un État palestinien aux côtés de l'entité sioniste. Et donc là, pour la première fois, Sanatollah a insisté que cela n'aura pas lieu. Comment il l'a dit? Tout simplement, il a dit qu'il n'est pas question que le Hamas ne remporte pas la victoire. Et donc, Saïd Hassan Nasrallah, bien entendu, il est en train de dire que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, quitte à que ce soit une guerre ouverte. Dans tous ses discours, le secrétaire général du Hezbollah n'a jamais éliminé l'idée d'une guerre ouverte. Il a dit que ce n'était pas le moment. Il a dit que nous sommes en train d'enregistrer des points. Mais il n'a jamais supprimé l'idée qu'on pourrait aller à une guerre ouverte. Il a reporté l'idée d'une guerre ouverte, mais il ne l'a pas supprimée.
Merci beaucoup, Madame Robala, pour cette ouverture. Metchami, alors, d'après vous, à quoi visent ces tueries continues, ce massacre continu des civils? Quel est l'objectif de cette machine de tuerie? Je rappelle que la CIJ, la Cour internationale de justice, exhorte également Israël à appliquer immédiatement ces mesures provisoires à Rafah et à Gaza.
Vous savez, le discours d'hier avait plusieurs intérêts. Le premier intérêt, me semble-t-il, par rapport à cet aspect d'attaque contre les civils, les choses ont été claires par rapport à la riposte qui a eu lieu et qui aura lieu, puisque on a assisté juste à un début de réponse, en tout cas c'est ce qui a été indiqué par Saïd Hassan Nasrallah. Il a indiqué également la motivation directe de cette attaque contre les civils, qui consiste à, entre guillemets, faire en sorte que les civils dans les zones du sud se révoltent, en tout cas commencent à contester la participation de Hezbollah et des autres résistants à cette guerre-là. En réalité, c'est un mauvais calcul du côté des sionistes, parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas la morphologie de la population dans le sens des convictions et des croyances, puisque c'est une région qui est animée, pour ne pas dire qui est alimentée, par l'idée de la résistance et par l'idée du sacrifice. Plus particulièrement la ville de Nabatieh. La ville de Nabatieh a toujours été, entre guillemets, la scène à travers laquelle passait la cérémonie des Ashura. C'est historiquement dans le sud, et d'ailleurs c'est là qu'il y a eu la première confrontation entre les gens du sud et l'armée israélienne qui se croyait chez elle. Et tout cela, évidemment, est connu dans la mémoire du sud et dans la mémoire des Israéliens. C'est-à-dire, il a rappelé aux Israéliens ce qu'ils sont en train de faire. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui est encore au-delà de cette question-là. Et puis, c'est la raison pour laquelle ces développements ont été beaucoup plus larges. Le développement concernant la nature de la participation dans cette guerre. C'est-à-dire, quand il explique que notre participation consiste à créer en quelque sorte l'équilibre de force, puisque en attirant les forces des Israéliens de notre côté, allège la charge qui pèse sur la population de Gaza et même sur la population de Cisjordanie, puisque les massacres continuent dans les deux zones. Et par conséquent, l'ouverture de plusieurs fronts permet également à l'axe de la résistance de montrer sa puissance, et c'est la raison pour laquelle il a salué plus particulièrement la participation des autres résistants, notamment en Irak, en Syrie et au Yémen. Il a insisté plus particulièrement sur ce qui se passe au Yémen, parce que ce qui se passe au Yémen, il lui a donné une interprétation géostratégique, c'est-à-dire notre participation est limitée à attaquer tout ce qui concerne l'Israélien, mais par contre, si les Américains veulent l'étendre, on la journera pour plus tard, mais en tout état de cause, on le garde en mémoire, cette participation des Américains à cette guerre-là, en attaquant les Yéménites, qui ne font que défendre par solidarité la population de Gaza, en tout cas le peuple palestinien. Mais son analyse beaucoup plus stratégique, c'est-à-dire concernant son insistance sur la nature de cette guerre en disant que c'est la guerre des Américains et ce n'était pas la guerre des Israéliens. La guerre des Américains est également d'enflammer cette zone-là pour justement rabattre les cartes et permettre à ses alliés de se repositionner et bien entendu lui permettre à elle de jouer sur ce que j'appellerais moi sur la braise, parce que les Américains ont toujours joué sur la braise. Ils allument le feu et à ce moment-là, ils jettent leurs forces pour y participer. Mais il avait également un autre message vers l'intérieur libanais qui m'a paru très important, en disant l'intérêt de la résistance a démontré que c'est la seule arme dont dispose le Liban, même si le Hezbollah encourage la création, ou plutôt l'amélioration de la position de l'armée libanaise, qui est empêchée par les Américains. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a comme solution, nous, Libanais, si on n'avait pas la résistance? Il leur a rappelé ce qui s'est passé depuis 82 jusqu'à maintenant. Et évidemment, la question de l'intérêt stratégique de la résistance, c'est-à-dire c'est une question de liberté, c'est une question de fierté, c'est une question d'indépendance. En alimentant toutes ces questions-là, évidemment, il a rappelé aux Libanais en général quelques soit leur confession, parce que également cette question est à prendre avec d'analyse, en tout cas de sens d'analyse du côté de Saïd Hassan Nasrallah. Il s'est adressé même à des personnes qui ont fait des déclarations en disant vous faites des déclarations stupides qui vont même au-delà de ce que prônent les Israéliens, mais en tout état de cause, je vais vous répondre. Et il apporte la réponse en disant qu'est-ce que vous avez à apporter? Vous voulez les Israéliens chez vous? Et après, vous n'aurez pas de dignité, vous n'aurez pas de fierté, vous n'aurez pas d'indépendance, alors que vous prenez l'indépendance. C'est quoi cette dépendance que vous prenez, alors que vous n'êtes même pas capable de comprendre son sens et son étendue? Toutes ces questions-là ont été analysées dans un discours fleuve, certes. D'ailleurs, il a rappelé que c'est un long discours, mais c'est un discours qui repositionne la question de la résistance en général au cœur du Moyen-Orient, mais aussi au cœur conflit entre l'axe de la résistance et l'axe américano-sioniste.
Analyse pertinente, merci beaucoup. Madame Obala, alors, s'agissant toujours du discours de Sayyid Hassan Nasrallah, selon Nasrallah, le prix de la reddition et de la capitulation, en fait, l'axe de la résistance n'a que deux options devant elle. La résistance ou bien doit résister, ou bien doit se soumettre et s'incliner devant cette machine génocidaire israélienne. Donc, selon Sayyid Hassan Nasrallah, la capitulation est élevée, les résultats et les conséquences sont élevées, dangereuses et très, très critiques. Vous pouvez un petit peu développer cette question de la dangerosité pour nous ?
Oui, alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais commenter de votre invité à bien souligner. Concernant Nabatieh, la première, il a fait allusion à Ashura. En effet, la résistance, je suis obligée de parler en termes confessionnels. La résistance des gens du Liban Sud, certes, elle était mélangée avec une participation de la part des Palestiniens, de la part de certains partis pro-syriens, mais surtout, il y avait le mouvement Hamas qui était chiite. Et au début de sa création, le mouvement Hamas était composé de beaucoup de dignitaires religieux chiites qui ensuite ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Hezbollah, la résistance islamique. Bref, au moment où le Liban Sud était occupé, notamment Nabatieh, par l'occupation israélienne, les premières opérations de résistance qui ont vraiment, nui à l'image de l'entité sioniste, et d'ailleurs de l'aveu du ministre, du Premier ministre à l'époque, Sharon, comment voulez-vous combattre ou vaincre des gens qui sont passionnés par la mort, autrement dit par le martyr, il voulait dire. Et en effet, tout le discours de la résistance des chiites du Haut-Décimain au Liban Sud, parce que la majorité sont des chiites du Haut-Décimain, est fondé sur Ashura, sur le sacrifice suprême, et donc c'est là où on a commencé à assister à des opérations martyrs, ou ce qu'on appelle, pour certains c'est des opérations suicides, mais en fait c'est des opérations martyrs. Ensuite, le Hezbollah a repris le flambeau de ces opérations. Donc, en effet, Nabatieh a été la ville qui a déclenché les premières opérations martyrs contre justement l'occupation israélienne. Deuxième point auquel je vais commenter, quand il a parlé justement concernant le discours qui est du secrétaire général du Hezbollah adressé aux Libanais. En fait, je voudrais ajouter quelque chose, étant donné que je suis au Liban et que je vois ce qui se passe ici au Liban, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire dans les médias libanais qui ne sont pas malheureusement, qui sont censurés à l'intérieur. Ce qu'on a constaté dans les sondages qui ont été faits récemment au Liban, c'est que l'opinion publique libanaise est de plus en plus en soutien avec la résistance islamique. C'est-à-dire, avant l'opération déluge Al-Aqsa, avant le 8 octobre, on était toujours en train de parler contre les armes du Hezbollah, etc. Or, tout le parcours que le Hezbollah a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il tente de mener une guerre entre guillemets propre, en ce sens qu'il empêche l'occupation israélienne d'élargir le cercle de ses raids. Et donc, de l'avis des amis et même de certains adversaires du Hezbollah, c'est que jusqu'à maintenant, il faut avouer que le Hezbollah, résistance islamique, est en train de mener cette guerre avec beaucoup de rationalité. Okay, donc, on a donc une opinion publique, une masse populaire libanaise qui s'est agrandie avec le Hezbollah. Et c'est cette cette masse, si j'ose dire, cette Hassan Nasrallah veut la protéger contre quoi? Contre le fait qu'il y a des gens qui sont des durs adversaires du Hezbollah qui pourraient peut-être tenter de critiquer ou de cette masse populaire. Et donc il a bien souligné dans son discours que ce qui se passe au Liban Sud, c'est en soutien à Gaza et pour protéger le Liban. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et même si nous remportons la victoire, il n'est pas question d'exploiter cela en termes politiques, c'est-à-dire d'imposer un président de la République, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de président de la République au Liban. Donc, c'est une façon également de rassurer les autres. Je sais que je n'ai pas répondu encore à votre question. Pour revenir à votre question, alors très vite, en effet, le secrétaire général du Hezbollah a rappelé dans son discours, et il y a une partie historique qui est très importante, c'est que si nous capitulons, toute la région sera dirigée par Israël et par les États-Unis. Et les États-Unis considèrent en termes d'empire qu'il n'est pas question de perdre Israël parce que c'est sa branche au Moyen-Orient. Et donc, la guerre qui a commencé à Gaza et qui ensuite s'est répertoriée dans diverses arènes dans l'arc de la résistance, c'est une guerre qui n'est pas seulement en relation avec l'existence de l'entité sioniste, mais avec l'existence, ou plutôt l'influence que pourraient avoir les États-Unis dans la région. Si l'entité sioniste est affaiblie, et elle est affaiblie, cela se répercutera sur l'influence des États-Unis dans la région. C'est la raison pour laquelle on constate pourquoi la Russie est la...
Je vous remercie. Alors, nous n'avons que 2 minutes devant nous. Alors, j'aimerais bien que Maître Chami donne sa conclusion pour terminer le débat. Je vous remercie et je vous donne la parole à Maître Chami pour conclure.
Écoutez, aujourd'hui, ce discours est un discours qui rappelle encore une fois la nature du conflit qui se déroule à Gaza. J'ai eu l'occasion de le dire sur votre chaîne que le but des Israéliens n'est pas uniquement d'éradiquer le Hamas. Le but des Israéliens, c'est un transfert de population. Et c'est la raison pour laquelle, dès les premières heures après le 7 octobre, tous les responsables israéliens parlaient, de vider Gaza pour remplacer les habitants de Gaza par une autre population. Et cela est valable pour l'ensemble du Moyen-Orient. C'est-à-dire, c'est une population qui doit concerner dans le monde, je parle parce qu'on dit que c'est le pays des Juifs du monde, et puisque ça a été rappelé par Saïd Hassan Nasrallah, ce pays-là est censé occuper l'ensemble du Moyen-Orient. Parce que quand on prend les actes des déclarations et des feuilles de route des organisations sionistes depuis 1908, c'est une date importante parce qu'il y a un papier, il y a une démonstration des pays qui devaient être occupés par l'entité sioniste. Ce n'est pas que la Palestine, c'est le Liban, c'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Égypte, c'est-à-dire c'est tout le Moyen-Orient. Tout ce que j'appellerais moi le cœur du Moyen-Orient. Et c'est là que se trouve le danger, et par conséquent, la résistance d'aujourd'hui, c'est la résistance contre cette attaque en règle contre l'ensemble de la région. Alors si certains pays arabes ou certains dirigeants arabes n'ont pas compris le danger, que même s'ils sont assis sur des sièges qu'on considère confortables, eux-mêmes ils sont menacés, c'est-à-dire s'ils ne comprennent pas que cette menace un jour les visera et les fera évacuer et aboutira justement à leur transformation en esclaves et en soumis à l'entité sioniste, c'est qu'ils n'ont rien compris et ça veut dire qu'ils ne feront tout simplement que s'enterrer tous seuls et ils finiront par disparaître, si j'ose dire, en allant dans la poubelle de l'histoire.
Merci beaucoup, Maître Chami. Merci à vous également, Madame Hopalla, d'avoir participé à ce débat. J'aimerais bien citer une belle partie également des déclarations de Saïd Hassan Nasrallah pour finir. Peu importe ce que nous disons et expliquons, nos mots seront incapables de décrire la résistance légendaire à Gaza et la fermeté légendaire de la population de Gaza. Merci à vous, amis téléspectateurs. Au revoir. À la prochaine.
voyage dans l'univers mystique de Mont Lavu. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. Fierté. Un paon était en train d'arracher ses plumes. Un singe vint à passer qui lui dit « Ô paon, pourquoi cherches-tu à t'enlaidir ? C'est bien dommage d'arracher de si belles plumes. Comment as-tu le cœur d'abîmer ainsi cette merveilleuse parure ? Tes plumes sont universellement appréciées. Les nobles s'en font des éventails. Les savants s'en font des marque-pages pour le Coran. Quelle ingratitude que la tienne ! As-tu jamais pensé à celui qui a créé ces plumes, ou bien le fais-tu exprès? Jamais tu ne pourras les remettre en place. Ne te lacère pas le corps par chagrin, car ce n'est que blasphème. » En entendant ces conseils, le paon se mit à pleurer et ses larmes émurent toute l'assistance. Le sage reprit. « J'ai commis une erreur. Je n'ai fait que rajouter à ta peine. » Le paon continuait d'arroser la terre de ses larmes et ses pleurs étaient comme des centaines de réponses. Cessant enfin de pleurer, il dit au sage, « Toi, tu vois les couleurs et tu sens les odeurs. C'est pour cette raison que tu ne comprends pas la multitude de tourments que me valent ces plumes. Oh, combien de chasseurs ont-ils jeté des flèches pour pouvoir s'en emparer? Je n'ai plus la force de résister à cette chasse perpétuelle. Il ne me reste qu'à me séparer de mes atours et à me réfugier dans le désert ou sur la montagne. Quand je pense qu'il fut un temps où ces plumes faisaient ma fierté. Chaque instant de fierté est une malédiction pour les vaniteux. » Deux anges purs, nommés Harout et Marout, avaient été condamnés à rester prisonniers au fond d'un puits, au beau milieu de l'univers. Ils étaient connus pour leur science de la magie, et cette réputation attirait beaucoup de monde. Eux se défendaient de vouloir enseigner la magie. À ceux qui insistaient, ils disaient « Nous n'enseignons la magie que pour éprouver les hommes. » Les désirs sont comme des chiens endormis. Le bien ou le mal qui réside en eux reste caché, bien qu'ils soient en apparence aussi immobiles que des bûches de bois. Les trompettes du désir retentissent dès que leur intérêt est éveillé. Des centaines de chiens se réveillent ainsi. Bien des désirs enfouis ressurgissent. Chaque poil de ces chiens devient une dent. Il en va comme de la braise qui se frotte au bois sec. On ne les voit pas toujours car ils n'ont pas de gibier à chasser. le malade a perdu son appétit. Il n'a qu'un seul désir, recouvrer la santé. Mais qu'on lui montre une tranche de pain ou un fruit, et sitôt la nécessité du régime est oubliée. Si jamais il prend patience, la vue de cette nourriture lui est utile, car elle le rend fort. Mais s'il n'a pas de patience, alors mieux vaut qu'il ne la voie pas. La gazelle. Un chasseur captura un jour une gazelle et l'enferma dans l'enclos où il parquait ses ânes et ses vaches. La pauvre gazelle courait égarée de ci de là. La nuit venue, le chasseur apporta du foin pour les ânes. Ceux-ci avaient si grand faim que cette vile nourriture leur était douce, comme le sucre. La gazelle, étourdie par la poussière, vaguait en tous sens. Être unie à son contraire est une torture pire que la mort. Toi aussi, tu subis cette torture sans même t'en apercevoir. L'oiseau de ton âme est enfermé dans la même cage que son contraire. L'esprit est comme un faucon, mais ta nature est celle du corbeau. Pendant longtemps, cette gazelle au parfum de musc se languit dans l'enclos des ânes. Elle se trouvait là comme un poisson échoué sur le rivage. Le musc et les excréments se trouvaient réunis en un même lieu. Les ânes commencèrent alors à se moquer d'elle. L'un disait « Oh, oh, elle a le caractère d'un sultan !» Un autre « Sans doute possède-t-elle des perles !» Quand ils furent rassasiés, ils l'invitèrent cependant à satisfaire sa faim. Mais la gazelle leur dit « Je suis bien lasse et je n'ai guère d'appétit. »« Ah oui !» firent les ânes. « Nous comprenons parfaitement. Tu as envie de faire des caprices. Tu as peur de déroger. »« C'est votre nourriture, » dit la gazelle. « Elle vous convient. Mais moi, je suis l'ami de l'herbe fraîche. J'ai l'habitude de me désaltérer à l'eau pure des rivières. Sans doute, ce qui m'arrive était écrit dans mon destin. » Hélas, ma nature n'a pas changé et me voici dans la situation d'un pauvre dont le regard n'est même pas avide. Mes vêtements sont peut-être défraîchis, mais moi-même, je suis encore toute fraîche. Quand je pense qu'autrefois, je mangeais à mon gré des lilas, des tulipes et des iris. La nostalgie t'égare, répliquèrent les ânes. La nostalgie t'égare, répliquèrent les ânes. « Mon musc est mon témoin, » répondit la gazelle. « Même l'ambre et l'encens lui portent le respect. Ceux qui sentent font seule la différence. Mon musc n'est certes pas destiné aux amateurs de fange. Oh, comme il est vain de proposer du musc à qui apprécie l'odeur du cretin. » Dans ce bas monde, le salut est dans la nostalgie et la solitude. Pleure. Un disciple rendit un jour visite à son maître. Il le trouva en train de pleurer et se mit, lui aussi, à pleurer encore plus fort. Quand deux amis se taquinent, celui qui a de bonnes oreilles rit une seule fois. Mais le sourd rit deux fois, car son premier rire n'est qu'une imitation. Sans comprendre, il rit avec tout le monde. Puis, quand on lui explique la cause de l'hilarité générale, il rit une seconde fois. un imitateur et comme un sourd. Il vit dans le plaisir et dans la joie, sans savoir ce que sont le plaisir et la joie. La lumière du maître se reflète dans son cœur. La joie du disciple dérive de celle de son maître. Ceux qui croient que cet état leur est propre sont comme un panier sur l'eau. Quand l'on sort de l'eau, il se rend compte que l'eau appartient à la rivière.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.